L'actualité des Alpes du Sud, municipale 2026, et les règles de scrutin changent pour les communes de moins de 1000 habitants.
À un an des élections finies, les noms à barrer sur les bulletins ou à ajouter au dernier moment, place aux listes comme pour les communes. De plus de 1000 habitants, elles devront être paritaires, une réforme que la droite et les communistes voulaient initialement pour 2032.
Dans l'actualité, Sisteron contraint de réduire ses effectifs.
Le conseil municipal a décidé de ne pas remplacer 10 départs à la retraite dans ses agents communaux. Conséquence, selon le maire Daniel Spagnoli, du désengagement de l'État, chiffré par la ville à hauteur de 2 200 000 euros de baisse sur ces 5 dernières années.
L'État et les départements haut-alpins s'accordent sur une aide de 95 000 euros pour les communes qui rénovent leurs bâtis.
La création de logements, notamment sociaux, a chuté sur le territoire, d'où cette aide de ces deux instances. Le conseil départemental haut-alpin qui se réunit pour la première fois aujourd'hui depuis la condamnation de son président mi-mars pour détournement de fonds, favoritisme et prise illégale d'intérêt. Une décision du tribunal correctionnel de Lyon dont le président avait fait appel.
Et puis pour Jean-Pierre Pradallier, il faut un plan d'envergure pour redynamiser les centres-villes.
Des propos tenus par le vice-président de la CCI 04 à l'occasion des premières rencontres des unions commerciales de l'année. C'était à Digne-les-Bains hier.
Et donc, les règles de scrutin des prochaines élections municipales vont changer pour les communes de moins de 1000 habitants.
Après une séance houleuse hier à l'Assemblée nationale, la parité a été élargie aux communes de moins de 1000 habitants. Concrètement, avant ce vote, le scrutin pour les élections municipales des communes de moins de 1000 habitants était majoritaire, plurinominal et à deux tours. Désormais, avec ce vote, les règles changent. Toujours deux tours pour voter, mais désormais pour des listes avec une parité homme-femme à respecter, comme pour les communes de plus de 1000 habitants. La date d'entrée en vigueur de cette réforme a fait l'objet d'une rude bataille dans l'hémicycle. La droite et les communistes souhaitaient une mise en application en 2032. Le gouvernement a demandé une deuxième délibération pour revenir au texte initial avec une entrée en vigueur pour 2026, soit l'an prochain. Et cela n'a pas plu à la députée des Alpes de Haute-Provence, Sophie Vaginericourt, du groupe Union des droites pour la République, opposée à la mesure.
Le groupe UDR votera contre cette réforme à un an des élections municipales. Car sous couvert de parité, cette réforme va en réalité, car c'est la vraie finalité de cette réforme, fragiliser le fonctionnement démocratique. Rappelons quand même que cette réforme est portée par la large coalition des élections législatives qui va de l'extrême gauche au socle commun et le plus étonnant quand même, par les sénateurs censés défendre les territoires et les petites collectivités. Alors pourquoi les communes rurales vont-elles être fragilisées ? Parce que mettre de telles contraintes sur les communes rurales, avec notamment la parité que vous brandissez comme un étendard, c'est en réalité une contrainte qui vise à empêcher de former des listes. En réalité, ce que vous êtes en train de faire, c'est plus de découragement dans les campagnes, plus de sièges vacants, plus de recul de la participation dans le monde rural. Vous vous érigez en défenseur de la démocratie, mais vous êtes en réalité les censeurs.
Des propos tenus par la parlementaire dans le palais Bourbon. La démocratie locale est une chose trop sérieuse pour être livrée à l'humeur du dimanche des élections, a déclaré la ministre déléguée chargée de la ruralité, Françoise Gatel. Les partisans de la parité ont dénoncé l'ancien système qui donnait lieu souvent à une pratique dite du tir au pigeon. Ces changements doivent permettre la constitution d'équipes municipales cohérentes et moins fragiles, selon la ministre déléguée.
Et en attendant ce nouveau mode de scrutin, les communes souffrent du désengagement de l'État dans leur budget.
C'est le cas notamment de Sisteron. Le conseil municipal a décidé de ne pas remplacer 10 départs à la retraite dans ses agents communaux. Conséquence du désengagement de l'État chiffré par la commune à hauteur de 2 200 000 euros de baisse de dotation sur ces 5 dernières années. D'autres emplois qui devaient s'ajouter dans certains services ne seront pas contractés. Daniel Spagnou, le maire de la ville.
Alors jusqu'à maintenant, on a pu se débrouiller de compenser le manque par des économies, par des emprunts à taux bas, Mais là, on arrive maintenant à la fin de l'exercice et maintenant, il faut prendre des mesures beaucoup plus draconiennes. Et le seul volet sur lequel on peut jouer et qui peut faire baisser du budget, c'est bien sûr les frais de personnel qui sont les plus importants dans un budget communal. L'exercice a été encore réalisable cette année, mais je ne sais pas s'il sera réalisable dans les années qui viennent ou alors il faudra supprimer des services publics ou les fermer au public beaucoup plus souvent que maintenant. Il y aura moins de services, il y aura moins d'employés. Et encore malgré cela, ça n'a pas suffi.
Cela n'a pas suffi, comme le dit Daniel Spagnou, puisqu'il a également décidé d'augmenter de 3% le foncier et de faire des économies dans les services. Quant aux subventions, elles resteront stables.
Face à la baisse de création de nouveaux logements dans les Hautes-Alpes, l'État et le département s'engagent.
Une baisse constatée depuis plusieurs mois, alors que le territoire compte près de 40% de résidences secondaires et de 10% de logements vacants. Pour créer de nouveaux logements, notamment sociaux, les maires seront encouragés à rénover et reconvertir du foncier bâti communal en logement, explique Jean-Marie Bernard, le président du département. Des aides de l'État et du département peuvent aller jusqu'à 95 000 euros par logement. Le département Haut-Alpin, justement, ses élus se réunissent aujourd'hui à partir de 9h30 à Gap, la première assemblée départementale depuis la condamnation du président Jean-Marie Bernard. Le 14 mars dernier, il avait été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon à 15 mois de prison avec sursis, 10 000 euros d'amende et une peine d'inéligibilité de 3 ans. Les raisons: détournement de fonds publics, favoritisme et prise illégale d'intérêt selon les juges. Une décision dont l'homme du dévolu a fait appel suite à cette condamnation. Et malgré son appel qui maintient son innocence, les deux députés des Hautes-Alpes ainsi que plusieurs conseillers départementaux avaient demandé sa mise en retrait de la présidence. Sans succès, l'ordre du jour de ce conseil départemental, l'aide alimentaire, les JO 2030, les travaux sur le col du Galibier, les EHPAD ou encore l'insertion des bénéficiaires du RSA, revenu de solidarité active. Et puis en bref, une fermeture de route de nuit, la RD902A sur Guillestre, entre le rond-point des Isclasses et la route nationale 94. Cela vaut la nuit entre 21h et 6h jusqu'à vendredi 6h du matin. La déviation se fait via le plan de Fazy, via la route départementale 86A.
Actions, échanges d'idées ou encore projets communs pour renforcer l'attractivité commerciale des centres-villes dans les Alpes de Haute-Provence. La CCI 04 tenait ce lundi sa première rencontre des unions commerciales de l'année.
Un rendez-vous au sein du Golf Resort de Digne-les-Bains pour mettre en avant les bonnes pratiques et les initiatives locales. Si après la crise de la Covid-19, une petite embellie avait été constatée, elle a masqué la réalité, celle d'une pente descendante depuis plusieurs années. Pour Jean-Pierre Pradalier, vice-président de la CCI des Alpes de Haute-Provence, il faut un plan d'envergure pour redynamiser les centres-villes et ne pas assister à une mort lente de ses commerçants.
On le voit à travers des chiffres tels que le chiffre de la vacance commerciale, hein, puisqu'il repart à la hausse en 2024, mais c'est un indicateur qu'on ne peut pas suivre à lui tout seul, parce qu'en fait, au-delà de la vacance commerciale, il y a aussi l'offre commerciale, c'est-à-dire quels sont les commerces aujourd'hui qui sont implantés dans les centres-villes. Et là, force est de constater que les centres-villes ne sont pas toujours effectivement très bien dotés au niveau commerce. La situation du commerce en centre-ville est délicate, elle est difficile, hein. Je crois que c'est Albert Camus qui disait que ne pas nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Donc je pense qu'il faut avoir un discours qui est très, très clair, très précis, très transparent. Il est grand temps que nos élus, en tout cas, se penchent sur ce problème et des actions fortes. Parce que vous savez qu'à un moment donné, le commerce de centre-ville n'est pas forcément là pour toute la vie. Et qu'il est très fragile aujourd'hui et que la moindre secousse peut vraiment le déstabiliser. Donc on a besoin vraiment que tous les acteurs, y compris les collectivités, mais les acteurs économiques, et la Chambre prend toute sa place aussi, soit au soutien des commerçants de centre-ville notamment, pour faire en sorte que leur activité soit pérenne.
Des propos recueillis par notre correspondant à Digne-les-Bains, Michel Bonnefoy. Une saison record pour Pralou, le chiffre d'affaires est en augmentation de 1,76%. L'hiver 2024-2025 aura été exceptionnel avec une fréquentation en hausse. Une trentaine d'événements par semaine ont été proposés par l'office de tourisme de Pralou. Selon la station, des conditions de glisse idéales ont été constatées lors du mois de mars avec jusqu'à 171 cm de neige en altitude et 45 cm en station.
Les vacances scolaires viennent donc de débuter et quoi de mieux que de proposer aux plus jeunes une petite activité culturelle.
Le Centre des Monuments Nationaux propose depuis le 6 avril de découvrir l'exposition Little Bighorn d'Ousmane avec un parcours adapté pour les familles au sein de la place forte de Mont-Dauphin. Les contenus sont accessibles dès 7 ans. Sur des bornes, toute la famille peut découvrir l'histoire de cette grande bataille, mais aussi le travail de l'artiste. Des défis seront à réaliser en famille. Ils permettent aux participants d'échanger sur leurs sentiments et leurs émotions face aux œuvres, tout en créant des moments de complicité, souligne le Centre des Monuments Nationaux. Notez que cette exposition est gratuite pour les moins de 26 ans. Attention, la réservation en ligne est conseillée sur le site internet, dont le lien est à retrouver sur alpe1.com. femmes.
Puis on termine avec une médaille d'or pour un haut alpin lors du championnat de France de vol relatif à 8 en soufflerie.
Cela se passait à Léquin, dans le Nord, vendredi et samedi dernier, sous l'égide de la Fédération française du parachutisme. 32 compétiteurs étaient présents, dont Martial Ferré, licencié à Skydive Center à Tallard. Le haut alpin fait partie de l'équipe Dark 8 qui s'est imposée avec 6 points d'écart face à l'équipe Nova. Il monte avec ses 7 camarades de vol sur la plus haute marche du podium.
Vous êtes témoin d'un événement ? Contactez la rédaction sur alpe1.com ou au 04 92 40 12 20.